Alors, on change de frontière et je vais vous parler de l'inaptitude au travail, l'inaptitude médicale, et d'insister sur les frontières floues et mouvantes de ce qu'on pourrait peut-être appeler l'inemployabilité. Alors, les sociologues, les économistes et les historiens depuis peu de temps ont montré que le marché du travail était traversé de multiples barrières. Mais ces barrières contribuent à segmenter le marché, à hiérarchiser le marché, à freiner les mobilités, les canaliser. Mais parmi ces barrières, il y en a une qui définit une frontière. C'est la catégorie juridico-médicale de l'inaptitude au travail. Alors, elle fait théoriquement le partage entre ceux qui sont employables et ceux qui sont rejetés, sans précision pour l'instant, en tant qu'inaptes au travail. Alors, cette notion a été conçue au départ pour préserver la santé des salariés. Or, l'inaptitude médicale au travail conduit chaque année depuis déjà plusieurs décennies, et même depuis, je vais remonter au début du XXe siècle, contribue à placer des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, de salariés, aux marges du marché du travail. Donc, l'inaptitude au travail serait-elle devenue, dans la pratique, un processus d'exclusion de la main-d'œuvre inutile, de la main-d'œuvre usée, au-delà de la frontière de l'employabilité. Alors, cette ambivalence invite à s'interroger dans une perspective historique sur la construction de cette notion, sur les usages que les acteurs en ont fait et sur les contours de cette inaptitude pour comprendre les ambiguïtés qui sont dans la notion, les mécanismes de la construction de ces barrières et les enjeux, à la fois pour la recherche et pour les travailleurs, de cette catégorie. Alors, d'abord, si l'on regarde du côté de la construction institutionnelle, on s'aperçoit que cette construction se fait étroitement imbriquée avec la construction de la médecine du travail, dont elle suit à peu près les rythmes majeurs. Le processus se construit en trois temps. Il remonte, du moins, la conception actuelle de l'inaptitude au travail, parce que le terme est beaucoup plus ancien, prend ses racines probablement dans la phase solidariste à l'aube du XXe, quand les milieux de la réforme sociale font émerger un droit du travail qui s'efforce de protéger les corps et des travailleurs et la santé des travailleurs contre les nuisances et les risques du travail. Les premiers textes qui mentionnent cette inaptitude, ce sont les décrets qui sont joints à la loi de l'hygiène industrielle de 1893 et qui concernent les industries à risque. Et il est intéressant de voir que là s'ébauche la médecine du travail telle qu'elle est pratiquée en France, c'est-à-dire ces textes font obligation à l'employeur d'embaucher et de rémunérer un médecin chargé d'assurer la visite médicale à l'embauche et le suivi des travailleurs. Et surtout, il autorise le médecin à émettre un avis d'inaptitude qui induit une rupture automatique du contrat de travail et sans recours. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première étape? D'abord, parce que la logique sanitaire qui vise à empêcher la dégradation de la santé du travailleur déjà atteint. Ensuite, elle fait émerger une conception de la médecine du travail assez spécifique qui place le médecin dans un rapport de subordination à l'égard de l'employeur et qui le place dans un rapport de proximité spatiale avec cet employeur, ce qui pose dès le départ la question de l'autonomie. Et enfin, la réglementation obéit dès l'origine à cette logique d'exclusion. La protection, elle, se fait par l'exclusion du salarié. On le met à l'écart, mais rien n'est prévu ni en deçà en termes de prévention, ni au-delà en termes de, d'indemnisation ou de reclassement, etc. Donc, cependant, la frontière est une frontière d'inemployabilité restreinte, circonscrite aux industries à risque. La deuxième étape, c'est passe directement aux années 40, à travers les textes de 40, 42 et 46, et qui vise la mise en place de la médecine du travail. Et là encore, ça alors cette fois, ça généralise, ça organise et généralise dans le secteur privé d'abord, et puis ensuite, plus tard, dans le secteur public, une médecine du travail qui obéit cette fois à une logique de prévention. Mais dans ce cadre, les médecins du travail dispose de l'avis d'inaptitude qui apparaît dans le décret qui suit la loi de 46 et qui peut être prononcé si l'accès ou le maintien dans le poste d'affectation risque de mettre la santé du salarié en danger. Là, et c'est le seul cas qui autorise le licenciement pour raison de santé. Et ce salarié, au départ, le salarié est déclaré inapte, au départ, n'a pas de droit de recours et il n'a pas droit de reclassement et ni à l'aménagement de son poste de travail. Donc c'est vraiment là aussi une forme d'exclusion, une inemployabilité mais qui est aussi circonscrite dans la mesure où c'est l'inemployabilité au poste de travail. Au-delà, le troisième temps, c'est un temps qui suit une phase de dérive de la pratique de l'inaptitude et qui conduit à poser des garde-fous juridiques, en particulier en enrichissant le contenu du contrat de travail, en 81 et 92, en prévoyant une obligation de reclassement et une obligation pour l'employeur d'aménager, de tenter d'aménager avant de pouvoir licencier. Donc, on passe d'une rupture automatique du contrat de travail à une procédure qui ouvre des droits et qui donne quelques garanties. Donc, ce que l'on revoit à travers cette construction, c'est institutionnel, juridique, c'est que tout au long de cette construction, la notion d'inemployabilité est très circonscrite. Elle est ciblée, dans un premier temps, sur les industries à risque, ciblée parce que théoriquement, le salarié est rejeté vers le marché. Et il est censé pouvoir trouver un emploi sur ce marché. Deuxième chose, c'est que la notion est très incomplète. Elle ne définit pas ce que c'est que l'inaptitude, si bien qu'elle laisse des marges de manœuvre qui donnent des possibilités d'utilisation variée de cette notion. Donc c'est là qu'on en arrive aux usages et la perspective historique montre justement que ces usages sont extrêmement variés, que cette notion est utilisée de façon différente selon les populations ciblées, en particulier si l'on regarde les études qui sont menées sur les travailleurs étrangers, la notion d'inaptitude est beaucoup plus sélective. Partant du principe que ces travailleurs sont des vecteurs, au début, c'est comme dans le discours, jusque dans les années 70, on retrouve ce thème, de l'étranger qui est porteur de maladies contagieuses, porteur de maladies sexuellement transmissibles, particulièrement exposé aux risques professionnels, si bien que dans ce traitement, à l'égard des étrangers, on fait évoluer la notion et d'une inaptitude médicale fondée sur des symptômes déclarés, on passe à une inaptitude prédisposition au risque. Et donc, on assiste à une extension de la notion médicale. Ensuite, on peut donner d'autres exemples de variations. Variabilité selon les cultures managériales. Je voudrais donner l'exemple des années 20 parce que pour répondre un petit peu à ce qui a été dit hier sur les conditions de travail. En fait, dans les années 20, il y avait une fraction des patrons français qui étaient assez perméables aux enseignements des sciences du travail, en particulier de l'orientation professionnelle, qui analysait l'inaptitude en termes de dysfonctionnement du marché. Et ce dysfonctionnement pouvait, à leurs yeux, disparaître par une politique adaptée et pouvait faire reculer la frontière. Cette position est évidemment extrêmement minoritaire et la culture managériale dominante était bien sûr fondée sur la recherche du profit et préférer la recherche du profit à la recherche du bien-être du personnel, notion qui était exprimée à ce moment-là et qui revient en force aujourd'hui. Et puis, il y a des variabilités extrêmement fortes de l'utilisation de la notion. Selon les segments du marché du travail, qui ont été à la fois le marché primaire, secondaire, et un marché que des travaux d'Anne-Sophie Bruneau ont montré, le marché intermédiaire, et qui montre que l'usage de l'inaptitude est extrêmement différent, d'intensité différente selon qu'on se trouve sur un segment ou sur l'autre. Et en particulier, lorsque la conjoncture s'en mêle, dans les années 80, cette intensité grandit et passe par des mécanismes assez compliqués. Donc, selon la conjoncture, l'inaptitude devient en fait un instrument de régulation, de gestion du chômage aussi, en déclarant en particulier dans les années 30, pour essayer d'évacuer une partie des inaptes vers l'assistance pour alléger la charge des organismes de chômage. Donc, à travers ces quelques exemples, et on pourrait les multiplier, on voit que l'utilisation qui est faite de l'inaptitude peut varier vraiment de façon très importante, vu l'incomplétude, si le terme est reconnu, et déplacer les frontières de cette inemployabilité. Alors, au-delà de ces usages et de ces fondements, en fait, ce que l'inaptitude et l'étude de l'inaptitude sur la longue durée permet de montrer, c'est aussi de pointer les dysfonctionnements qui apparaissent au cœur du système. C'est-à-dire, en regardant les marges, on s'aperçoit qu'on voit aussi le mode de fonctionnement à la fois du système productif et de la société. Et finalement, on pointe des problèmes essentiels du travail, le problème ou de la société, c'est-à-dire les problèmes des inégalités sociales que l'inaptitude révèle, parce que les inaptes ont qui draine majoritairement des ouvriers peu qualifiés, des ouvriers précaires et des ouvriers et aussi avec une surreprésentation aujourd'hui des maladies ostéo-articulaires et une surreprésentation des femmes et surtout peut-être parce que ça c'est moins évident mais surtout une différenciation médicale des pathologies féminines qui reflète le mirage de la mixité sur le marché, la mixité des emplois sur le marché du travail. À emploi mixte répondent à emploi féminin correspondent des pathologies féminines. Et puis le deuxième aspect, c'est l'inaptitude pointe aussi les problèmes de cycle de vie sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'en fait, l'inaptitude montre qu'il y a deux catégories particulièrement touchées, aux deux extrêmes du cycle de vie, les travailleurs les plus âgés, qui sont très touchés, et en particulier l'étude de SVP 50 sur les travailleurs de plus de 50 ans montre que les médecins du travail, s'ils appliquaient vraiment la notion d'inaptitude, ils devraient mettre 11% de personnes déclarer 11% des travailleurs, ce qui est un chiffre énorme qui correspond pas du tout à la réalité de la pratique, mais qui montre bien que un des problèmes essentiels sur le marché du travail aujourd'hui est de penser ces parcours dans leur totalité, et les parcours et le travail pour l'adaptation du travail au vieillissement, et peut-être y penser avant d'allonger la durée légale du travail. Vulnérabilité aussi des jeunes, et vulnérabilité beaucoup plus, c'est un phénomène plus nouveau, mais qui est tout aussi inquiétant, parce qu'il témoigne de la difficulté aujourd'hui d'accéder au marché du travail dans un pays où les formalités d'embauche deviennent de plus en plus, qui cumulent les exigences par rapport à aux pays voisins, et qui finalement rendent l'accès au marché du travail difficile, voire impossible pour certains jeunes. Et troisième démarche que nous montrent les travaux sur l'inaptitude, troisième aspect, c'est l'aspect générationnel, l'approche par classe d'âge, par classe d'âge, par génération, et la comparaison même qui peut être menée, qui a été menée en comparant des générations à 10 ans d'intervalle, montre que l'inaptitude, ces cohortes d'inaptes, montre que les mettent en évidence plutôt des tendances fortes et des évolutions majeures. Par exemple, entre deux générations qui sont séparées par 10 ans, de femmes nées au début du siècle, on s'aperçoit que les premières sont inaptes pour avoir mené une carrière longue et très intégrée, et dans des conditions difficiles, elles sont inaptes plutôt par usure, tandis que la génération qui suit est plutôt inapte par précarité, et donc pour avoir eu des trajectoires beaucoup plus discontinues. Donc, ce qui est intéressant dans cette étude des marges, c'est que non seulement on s'attache à des populations qui sont en marge de la société ou du travail, mais aussi on voit le mode de fonctionnement au centre. C'est ce que Robert Castel avait bien montré dans son ouvrage. Et aussi, ce thème mériterait des comparaisons beaucoup plus poussées au niveau européen, parce que l'inaptitude au travail apparaît en quelque sorte comme une spécificité française, dans la mesure où la plupart du temps dans les autres pays, elle est appliquée aux industriels à risque, donc elle est limitée dans son action, et d'autre part, elle est déclarée par des services qui ne sont pas dans la même position que le médecin du travail en France. Ils sont déclarés plus souvent par des services extérieurs, et que les recours semblent beaucoup plus importants à l'extérieur pour les salariés européens par rapport aux salariés français. Je vous remercie.